Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce qu'être noir et immigré veut dire dans la ville de Saint-Jean. Une chronique de Joseph Queutcheux, parue dans le Saint-Jeannois. L'expérience d'être noir et immigré dans la ville de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, est un parcours à la fois riche et complexe. Ce chemin est parsemé de défis et d'opportunités qui façonnent la vie quotidienne de ceux qui, comme moi, ont décidé de s'y établir. La ville, bien que charmante et accueillante, présente des réalités que les nouveaux arrivants doivent appréhender pour réussir leur intégration. L'arrivée entre espoir et réalité. Pour les immigrants noirs, s'installer à Saint-Jean ne se résume pas à apprendre une nouvelle langue ou à s'habituer à un climat différent. C'est aussi un processus d'adaptation culturelle et sociale où la notion d'identité joue un rôle central. Être perçu différemment en raison de sa couleur de peau et de son origine ethnique est une réalité inévitable. Le racisme et la discrimination, bien que souvent subtils, sont des défis auxquels de nombreux immigrants noirs doivent faire face. Les microagressions, les stéréotypes et les préjugés peuvent compliquer l'intégration et créer un sentiment d'exclusion. L'accès à l'emploi est un autre obstacle majeur. Les immigrants noirs, malgré leurs compétences et leurs qualifications, se retrouvent souvent confrontés à des barrières linguistiques, à des qualifications non reconnues et à des biais raciaux. Cela les pousse souvent à accepter des emplois précaires ou mal payés. La force de la communauté, un soutien essentiel. Cependant, être noir et immigré à Saint-Jean, c'est aussi contribuer à la richesse culturelle de la ville. La communauté noire apporte avec elle des traditions, une histoire, une cuisine et des valeurs familiales qui enrichissent la diversité locale. Les festivals, les marchés et les événements culturels permettent de partager cette richesse et de tisser des liens entre les différentes communautés. Les associations et les organisations de soutien jouent un rôle crucial dans l'intégration des immigrants noirs. Elles offrent des services d'accompagnement, des cours de langue, des conseils juridiques et des opportunités de réseautage. Ces structures sont essentielles pour ceux qui arrivent dans une ville nouvelle et inconnue. Les institutions éducatives, telles que les écoles, les collèges et les universités jouent également un rôle important. Elles créent des environnements inclusifs et respectueux de la diversité. L'éducation multiculturelle doit cependant encore y être renforcée dans les curriculums pour sensibiliser les jeunes générations à l'importance de l'inclusion et de la diversité. Être noir et immigré à Saint-Jean signifie aussi redéfinir les notions d'identité et de communauté. C'est un équilibre entre la préservation de ses racines culturelles et l'adaptation à une nouvelle réalité. Pour moi, il s'agit d'une opportunité de s'épanouir dans un environnement où la diversité est de plus en plus valorisée. Malgré les défis, l'espoir est mon moteur. Je crois en un avenir meilleur pour Saint-Jean, un avenir où la diversité est célébrée et où l'inclusion est une réalité. Je veux contribuer à bâtir une ville où mes enfants et tous les enfants se sentent chez eux, quelles que soient leurs origines. Mon espoir repose dans l'extrême générosité et la chaleur humaine que dégage la communauté acadienne locale. Cet espoir est également porté par cet élan d'inclusion qui caractérise de plus en plus les politiques publiques locales, dans lesquelles la question de l'intégration des nouveaux arrivants est devenue sensible. Cette tribune est un appel à l'action. J'invite les citoyens de Saint-Jean à ouvrir leurs cœurs et leurs esprits, à combattre les préjugés et à embrasser la diversité. Ensemble, nous pouvons faire de Saint-Jean une ville véritablement inclusive, où chaque personne, quelle que soit sa couleur de peau ou son origine, se sent valorisée et respectée. C'était ce qu'être noir et immigré veut dire dans la ville de Saint-Jean. Une chronique de Joseph Queutcheux, parue dans le Saint-Jeannois.
Comment la ville de Québec entend prévenir en 15 ans la mort des piétons? Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 20 mars 2025 dans Le Devoir. Au Québec, les morts d'usagers de la route sont en baisse, sauf chez les piétons. La capitale nationale et son maire, Bruno Marchand, souhaitent que la révolution piétonne en cours prévienne les décès des marcheurs et des cyclistes sur son réseau routier d'ici 2040. Comment réfléchit-elle à ces interventions? Voici les coulisses d'une ville qui sécurise ses rues, une saillie de trottoirs à la fois. Le téléphone de Marc Desrivières, directeur du service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec, ne cesse jamais de se manifester. Quand chaque collision et sortie de route à survenir sur le territoire de la capitale déclenche automatiquement une alerte dans votre cellulaire, la vibration au fond de la poche devient, après tout, aussi omniprésente que l'air au fond des poumons. Son ambition, à lui et à la douzaine de fonctionnaires qui se consacrent à la sécurité routière dans la capitale, c'est que l'appareil se taise le plus possible. Moi, les quelques 500 000 citoyens de la ville de Québec, c'est comme les membres de ma famille, puis on ne veut pas qu'il arrive un événement malheureux aux membres de notre famille, explique celui qui se consacre au transport dans la capitale depuis près de 40 ans. Si j'ai conscience d'un risque, je veux mettre en œuvre tous les moyens dont je dispose pour l'atténuer et éviter une collision. Répertorier les dangers. La brigade affectée à la sécurité routière dispose de tout un arsenal pour répertorier quelle partie, parmi les 2500 km et les 9000 intersections du réseau routier de Québec, sont les plus dangereuses. Elle épluche systématiquement les rapports de collision rédigés par la police, un corpus qui totalisait, lors de l'élaboration de la plus récente stratégie sur la sécurité routière, 35 000 documents compilés sur une période de 5 ans. La population envoie aussi à la ville environ 1 500 signalements par année, uniquement pour des cas de vitesse excessive. Ces drapeaux citoyens, conjugués aux observations directes de la ville sur le terrain, servent à cartographier les lieux les plus périlleux de Québec. Une fois les collisions placées sur la carte, nous procédons à leur analyse selon trois critères: leur fréquence, leur gravité et leur taux, c'est-à-dire le nombre d'accidents par rapport au nombre de véhicules, expose Marc Desrivières. Un carrefour où survient le décès d'un piéton deviendra plus prioritaire, par exemple, qu'un autre avec de la seule tôle froissée. Comprendre avant d'intervenir. La plus récente stratégie sur la sécurité routière de la ville avait priorisé 140 lieux propices aux collisions. La brigade a scruté chacun d'entre eux à la loupe pour définir ses interventions et, surtout, réaliser les bonnes. Chaque collision a son histoire, explique Marc Desrivières, et il faut la comprendre pour procéder au bon changement, particulièrement si elle concerne un piéton. Avant d'intervenir, l'équipe veut comprendre le fin détail du contexte qui entoure un accrochage. La percussion a eu lieu de quel côté, à quelle heure du jour et sous quelle lumière? Concerne-t-elle un enfant, un aîné, un chauffeur en état d'ébriété? Les feux pour piétons étaient-ils activés et, si oui, pendant combien de temps? Il y a toutes sortes d'éléments qui vont entrer en considération et qui vont permettre de guider la nature de l'intervention à faire, indique M. Desrivières. Si on a un risque de collision lors de virages à gauche, c'est sûr que les actions que je vais mettre en place vont viser à réduire ce risque-là. Ces actions varient en ampleur et en durée. Parfois, il suffit d'ajouter un feu ou de le prolonger, de dessiner un meilleur marquage, de modifier la signalétique ou d'augmenter la présence policière. Dans d'autres cas, il faut plutôt rétrécir la rue, élargir les trottoirs et les saillies, élever un carrefour ou améliorer l'éclairage. Il y a quelques années, raconte Marc Desrivières, une dame de 31 ans marchait sur un trottoir dans le Vieux-Port, puis un camion semi-remorque, qui était là de façon illégale, l'a happée dans un virage prononcé et elle en est décédée. Nous avons constaté que nous pouvions éviter qu'un drame similaire se reproduise. Nous avons modifié la courbe pour augmenter le rayon de virage et nous avons élargi le trottoir pour donner aux piétons qui marchaient un lieu pour s'échapper. Un budget et ses retombées. Le coût du chantier s'élevait à plus de 500 000 $, puisé à même un budget de 60 millions de $ sur 5 ans pour améliorer la sécurité routière de Québec. Cette enveloppe aura notamment permis, entre 2020 et 2024, de construire 46 km de nouveaux trottoirs, d'aménager des corridors scolaires à proximité de 116 écoles et d'améliorer la signalisation de 460 passages piétons, en plus d'allonger les feux piétons à 197 intersections et d'en ajouter à 56 autres endroits. Depuis 2021, la ville a également limité la vitesse à 30 km/h sur 60 % du réseau, soit sur 1442 km de route, une inversion totale de la proportion antérieure, où cette limite concernait seulement 17 % de la voirie municipale, pendant que les automobiles pouvaient circuler à 50 km/h sur 81 % du réseau. La ville a aussi apporté des correctifs sur une cinquantaine des 140 sites accidentogènes recensés et elle entend profiter du chantier du tramway pour accélérer la cadence de ses interventions aux carrefours situés sur son tracé. L'intelligence artificielle pour prévenir les collisions. Les interventions mises en place portent leurs fruits. Le nombre de collisions a diminué de 60 % entre 2012 et 2023, passant de 7 400 à 2 929, pendant que la population, elle, augmentait de 11 %. Le téléphone de Marc Desrivières, cependant, vibre encore trop à son goût. Au cours des 5 prochaines années, lui et son équipe veulent s'inspirer de New York et mettre en place des zones pour aînés capables de mieux protéger cette population piétonne surreprésentée dans les statistiques de décès et de blessures graves. La ville veut aussi se munir de caméras capables, avec le secours de l'intelligence artificielle, de signaler les « near misses », soit les collisions évitées de justesse sur le réseau. Ça va être un outil de prévention très, très intéressant, conclut Marc Desrivières, pendant que, sur son écran, un accrochage sur l'autoroute Laurentienne s'ajoute à un chapelet d'alerte déjà bien garni. C'était « Comment la ville de Québec entend prévenir en 15 ans la mort des piétons », un texte de Sébastien Tanguay, paru le 20 mars 2025 dans Le Devoir.
Cultiver son potager, bon pour la santé et la planète? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 28 mars 2025 dans la presse. Faire pousser des fruits et des légumes en ville. Est-ce que ça présente des risques pour la santé? Demande Hélène, une lectrice. Oui, les légumes peuvent contenir des contaminants. Mais les données démontrent qu'il n'y a aucun danger pour la santé, soutient Éric Duchemin, directeur scientifique du laboratoire sur l'agriculture urbaine, AO/Lab. En ville, des polluants comme des métaux lourds ou des hydrocarbures peuvent se trouver dans le sol et être absorbés par la plante à travers ses racines. Certaines études ont montré que des traces de polluants pouvaient, éventuellement, apparaître dans les aliments. Mais d'autres montrent que, même lorsque les fruits et légumes sont cultivés dans des sols contaminés, on reste toujours bien en dessous des normes de contamination. Bref, on a besoin de plus d'études scientifiques pour mieux éclairer les réponses à cette question, indique Pierre-Paul Audat, professeur au département de géographie de l'Université de Montréal et spécialiste en agriculture urbaine. Pour Éric Duchemin, le risque réside plutôt dans le fait de jardiner dans un potager dont le sol est contaminé et d'absorber des polluants lorsqu'on touche son visage, par exemple. Des polluants dans l'air? Pour ce qui est des polluants présents dans l'air, notamment à cause du trafic routier comme les particules fines, ils peuvent également se déposer sur le sol et les végétaux. Il est recommandé de bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer, peu importe où ils ont été produits, rappelle Pierre-Paul Audat. Les deux experts insistent tout particulièrement sur la laitue, même lorsqu'on l'a cultivée de façon bio. Et qu'en est-il des petits fruits qui sont difficiles à laver? Des tests ont été réalisés par Éric Duchemin en 2018. Même lorsqu'on ne les lave pas, on ne retrouve pas, ou que très peu, des contaminants dans les petits fruits. Même si la plante absorbe les polluants par ses racines, elle ne les transporte pas vers ses parties aériennes, tiges, feuilles et fruits, car ce n'est pas un élément d'intérêt pour elle. Des bénéfices pour la santé et l'environnement. Il est un peu difficile d'affirmer si les fruits et légumes cultivés à domicile présentent plus ou moins de risques que ceux achetés en épicerie, souligne Paul-Pierre Audat. Car ces derniers peuvent eux aussi contenir des substances toxiques, comme des résidus de pesticides. Généralement, les fruits et légumes cultivés maison ne semblent pas présenter de risques significatifs pour la santé. Et même, pour Éric Duchemin, c'est plutôt l'inverse. Avoir un potager, ça permet aussi de faire de l'exercice physique, de la socialisation, de l'inclusion sociale. Ça a beaucoup de bénéfices, énumère-t-il. Sur le plan de l'environnement, cela permet d'offrir des habitats pour plusieurs espèces animales et fournir de la nourriture pour les pollinisateurs. Les endroits en ville où il y a le plus de biodiversité, ce sont les jardins communautaires, rappelle l'expert. Ce sont des lieux de biodiversité incroyables. Cela permet également d'améliorer la santé des sols en facilitant une meilleure infiltration d'eau et de lutter contre les îlots de chaleur grâce à la canopée. Cultiver ses propres aliments permet aussi de réduire l'empreinte carbone du secteur agroalimentaire, rappelle Pierre-Paul Audat, puisqu'on limite le transport des aliments et l'utilisation de pesticides de synthèse. Quelques conseils. Bien entendu, faire pousser ses propres fruits et légumes présente son lot de défis, notamment face aux écureuils, aux marmottes et aux ratons laveurs, qui peuvent raser un potager en une nuit. Éric Duchemin recommande de cultiver des choses que ces petits animaux aiment moins, comme des piments forts, et de leur barrer l'accès au potager au moyen d'une clôture. On peut essayer aussi de leur mettre un point d'eau, parce que c'est souvent ça qu'ils veulent quand ils viennent manger une tomate. Ils cherchent de l'eau, indique-t-il. Si on veut fertiliser son sol, ou si on a des insectes ravageurs, il est préférable d'éviter les produits agrochimiques et synthétiques qui peuvent être toxiques pour les insectes, les pollinisateurs et même les humains, rappelle Pierre-Paul Audatte. À la place, on peut privilégier des produits biologiques, comme du compost ou des engrais verts. Il recommande aussi d'éviter les fumiers mal compostés, qui peuvent être une source de contamination par des bactéries comme E. coli. De son côté, Éric Duchemin conseille de bien choisir quels fruits et légumes planter selon le moment de l'année, bien sûr, mais également l'ensoleillement. Sur un balcon très ensoleillé et avec peu d'ombre, mieux vaut privilégier les aubergines, poivrons et piments. Et réserver la laitue ou les légumes feuilles plutôt pour le début de saison, histoire d'éviter qu'ils ne souffrent de la chaleur. On peut éventuellement installer des bacs à réserve d'eau pour ne pas avoir à arroser trop souvent. Car rien qu'en mettant quelques plantes sur son balcon, on favorise déjà la biodiversité, lance-t-il. C'était cultiver son potager, bon pour la santé, la planète, un texte de Chloé Bourquin, paru le 28 mars 2025 dans La Presse.
Michel Comte, héros de notre histoire. Un texte de Serge Fizette, paru le 28 mars 2025 dans le magazine Fugue. Il est surtout connu pour sa célèbre chanson « Évangeline », cette légendaire héroïne acadienne de l'époque du Grand Dérangement et de la déportation. De même, il est surtout connu sous le nom de Michel Comte, alors qu'au départ il est né Michel Sun, et qu'à la fin de sa vie, il endossera l'excentrique personnage de Melki Makandar, sorte de barde celtique fasciné par les médecines alternatives, les nouvelles thérapies, la danse sacrée, la musicosophie et l'harmonisation des énergies féminines et masculines. Né en 1932 à Villeneuve-sur-Lot, France, dans une famille de paysans, il quitte sa région à l'âge de 13 ans afin d'étudier le piano, l'orchestration et la composition au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. À 17 ans, il obtient un deuxième prix de piano, mais doit arrêter ses cours car il est atteint de tuberculose et de leucémie. Ensuite, il suit des leçons de danse et rejoint les corps de ballet de Bordeaux et de l'Opéra de Strasbourg. C'est à ce moment-là qu'il adopte le nom de Comte, en hommage à la comédienne française Louise Comte. Il devient premier danseur du Casino de Paris avec Jeannine Monin, dont la relation amoureuse l'inspirera pour son essai « Les Évangiles ». Il fréquente les salons parisiens, rencontre Trenet, Cocteau, le critique de danse Paul Verviche et devient l'ami intime du prince russe Alexandre Volinsky. Arrivé au Québec en 1955, Michel Comte travaille à la télévision comme danseur, chorégraphe, pianiste, décorateur, metteur en scène, compositeur de musique pour des opéras, des comédies musicales et au cinéma, notamment pour les films Les Colombes et Bingo du réalisateur Jean-Claude Laure. Il compose également des chansons, lesquelles sont interprétées par les vedettes que sont Lucille Dumont, Monique Lérac, René Claude et Isabelle Pierre. Se voulant un audacieux révolutionnaire chrétien, il donne des spectacles pop-rock dans des églises. C'est ainsi, vêtu d'un caftan chatoyant et entouré de son gang d'apôtres sur deux roues, que le chanteur actualisa des paraboles. En 1973, il cofonde une école de danse avec son compagnon Tom Scott, le studio d'expression corporelle, le premier du genre en Amérique du Nord visant à harmoniser l'esprit, le corps et l'âme en fusionnant la poésie, la danse et la musique dans une même création. Devenu membre des Rose-Croix, ses ateliers sont inspirés des enseignements des grands initiés de l'ordre. En 1979, il publie « Le prix des possessions », où l'héroïne affirme « J'ai beaucoup d'homosexuels parmi mes relations. Ce sont les gens que je préfère. » Ses révélations intimes sur ses penchants, il en fera également des allusions plus ou moins voilées dans quelques chansons, comme dans « Entre toi et moi ». Après des siècles d'impatience, d'apprentissage et d'expérience, nous nous donnons le droit d'aimer. Après des siècles de torture, de rébellion et de parjure, nous venons de nous pardonner. Nous venons de nous retrouver, nous venons de nous recréer. Et dans Bordeaux, la prison où un détenu clame, le temps s'est fait pour oublier, puis à comprendre ce que c'est qu'aimer. En attendant, moi, j'ai Johnny. C'est pas pareil, c'est pas permis, mais quand t'as le cœur qui fait mal, tu te fous bien de ce qui est normal. Ce qui est pas normal, c'est de ne pas aimer. Mais c'est dans son autobiographie « Nu comme dans des nuages » qu'il fait son véritable coming out. « Ne pas parler de sexualité, dit-il, c'est ne pas parler de soi. » Dès lors, il relate sa relation avec Raymond, un culturiste amateur dont le corps ressemblait à celui du célèbre David, avec Jacques, un ex-motard du groupe des Hells Angels, Tom, qui l'initia au corps de l'homme, à ses désirs et à ses conquêtes, et Mark, un jeune adolescent dont il s'est occupé. Au début des années 1980, il s'exile à Tenerife, aux îles Canaries, où il entreprend une longue quête spirituelle et ésotérique en devenant musicien humaniste. De retour à Montréal, il présente des spectacles. Le Michel Comte qui revient au Québec avec Melky veut dédier le restant de cette vie à donner des concerts d'amour et de guérison, des séminaires d'autoconscience, des thérapies individuelles. En 1998, paraît comme un grand cri d'amour, un récit entre le cœur et l'âme, à la fois sous forme de roman, de cassette et de disque numérique, dans sa version chantée. Tout au long de son parcours, Michel Comte a touché à l'abandon, au manque d'amour, au mal de vivre, à l'enfant en soi. C'est de tout cela dont il parle sur cet album, particulièrement de l'amour abandonné, étouffé, mélancolique et finalement retrouvé. En 2006, il reçoit de la SOCAN, Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, une plaque rappelant la première position d'une de ses chansons à divers palmarès. Le 28 octobre, lors du gala de la disque, son Évangeline gagne le prix de la chanson de l'année. En 2007, il est l'invité d'honneur au Salon du livre de Dieppe au Nouveau-Brunswick, recevant un hommage du gouvernement lors d'une réception officielle. Il s'éteint l'année suivante. C'était Michel Comte, héros de notre histoire. Un texte de Serge Fizette, paru le 28 mars 2025 dans le magazine Fugue.